Marie-André, pendant les années de 70, à Québec, nous avons toujours chanté des airs de la foi, et ce cantique qu'on vient de chanter se trouve là-dedans. Merci beaucoup, Philippe, parce que je crois que plusieurs connaissent quand même les airs de la foi. OK. Alors, comme je viens de vous dire, alors bonjour, que le Seigneur vous bénisse parmi nous ce matin. Alors, j'aimerais lire dans Jean chapitre 13, au verset 31 à 35. Voici ce que nous lisons. Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit, maintenant le Fils de l'homme a été glorifié, et Dieu le Père a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même, et il le glorifiera bientôt. Mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me cherchez, et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Je vous le dis aussi maintenant. Je vous donne un nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Prions Dieu. Oui, Père Céleste, c'est vraiment une joie de pouvoir venir à toi pour t'adorer en esprit, en vérité, et pour pouvoir écouter la parole de Dieu. Alors, je te prie par ton esprit que tu nous éclaires et que tu sois avec nous et que cela soit une journée bénie, une journée que nous faisons peut-être une décision pour te suivre davantage, une journée où nous pouvons être vraiment un témoignage de ta fidélité et de ta gloire. Je te prie, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Alors, mon message se trouve ce matin dans le contexte de Jean, chapitre 13 à 17. Ce sont les paroles finales, ce sont les derniers mots que Jésus-Christ a partagés avec ses disciples. Et en gros, il dit au revoir, adieu, adieu. Alors, il s'en va bientôt. Et Jésus, sachant que son temps est proche pour partir de ce monde, dit à ses disciples que quelqu'un parmi nous, parmi vous, parmi eux, va le trahir. Nous lisons dans Jean chapitre 13, au verset 21. Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit, et il dit expressément, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Et au verset 30, le même chapitre, Judas, ayant pris le morceau, se hâta de sortir, il faisait nuit. Ensuite, il fait cette déclaration au verset 31 et 32. Alors, nous lisons de nouveau dans ces deux versets. Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit, maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié, et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même et il le glorifiera bientôt. Moi, j'étais frappé par le fait que le mot glorifié est employé 5 fois dans ces deux versets. Et cela me dirige à vous parler au sujet de la gloire et plus spécifiquement atteindre la gloire. La gloire signifie l'honneur que nous conférons à quelqu'un. Cela peut se rapporter aussi à notre condition au ciel, notre bonheur, notre joie. Et quel jour cela sera lorsque nous sommes là avec Jésus-Christ? La gloire signifie aussi la reconnaissance de ce que nous sommes. Alors, c'est dans un sens correct, c'est quelque chose que nous désirons. Nous voulons être reconnus. Nous voulons réussir dans tout ce que nous faisons. Nous voulons nous plaire aux autres. Peut-être demandez-vous, pourquoi voulez-vous, pourquoi est-ce que je veux être reconnu? Pourquoi je voudrais réussir dans ce que je faisons? Alors, chers amis, ça fait partie de notre appel. Je lis ceci dans 1 Corinthiens 6, au verset 19 et 20. Écoutez bien, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre esprit, corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Alors nous glorifions Dieu par la manière dont nous vivons, par la manière dont nous accomplissons le plan de Dieu. Nous faisons connaître la gloire de Jésus-Christ et son caractère, sa personne. Alors, quand je glorifie Dieu, je fais connaître sa bonté, son amour, sa grâce, sa miséricorde, sa sainteté, sa justice. Et même, je glorifie Dieu lorsque j'accomplis ce que Dieu veut que je fasse. Alors, cela me dirige ce matin de partager avec vous trois points majeurs que je trouve dans ces cinq versets. Tout d'abord, il y a deux manifestations divines de la gloire. Ensuite, nous verrons le secret pour atteindre la gloire. Est-ce qu'il y a quelque chose, un secret que nous pouvons apprendre ce matin pour atteindre la gloire nous-mêmes, pour être reconnus? Et troisièmement, nous découvrons la puissance pour atteindre la gloire. Tout d'abord, il y a deux manifestations de la gloire dans les versets 31 et 32 que je viens de lire. Tout d'abord, le Fils de Dieu est glorifié. Son départ et sa mort sont si proches, si certaines, que Jésus en parle comme c'est déjà accompli. Voici ce que je lis dans Jean chapitre 12, verset 23. Jésus leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. » Il n'a pas dit que le Fils de l'homme doit être crucifié, mais il regarde au-delà de la croix et sa gloire qui va suivre. Et il y aura de la gloire qui va suivre pour le Seigneur Jésus-Christ. Luc 24, au verset 26, dit, « Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? » Et oui, bientôt, après sa mort, il entre dans sa gloire. Il sera là à la droite de son Père. Il va expérimenter ce qu'il avait eu avant la fondation du monde. Et nous voyons aussi dans ces versets que Jésus a été glorifié lorsqu'il est mort sur la croix. Il est devenu le Rédempteur, le Sauveur qui ôte le péché du monde. Mais on voit aussi dans le verset 31 et 32 que Dieu le Père est aussi glorifié. Comment Dieu était-il glorifié? Nous avons la réponse dans Jean chapitre 17 au verset 4. Il dit, je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Jésus-Christ a glorifié son Père et Dieu a été glorifié en lui parce que Jésus a accompli les plans. Avant la fondation du monde, il y avait un plan. Et Dieu avait envoyé son Fils dans le monde. Et Jésus-Christ avait fait des miracles. Il avait fait des œuvres qui ont rendu gloire à son Père Dieu. Et on voit qu'il avait accompli le plan de Dieu. Il était très, très fidèle en faisant connaître le message de Dieu. Et nous glorifions Dieu nous-mêmes lorsque nous sommes aussi fidèles en faisant les plans qu'il avait établis pour nous. Alors, la question que je pose ce matin, comment pouvons-nous atteindre la gloire? Cette vie qui est reconnue, cette vie qui rend gloire à Dieu, cette vie qui connaît le succès, cette vie qui se plaît aux autres. Est-il possible d'atteindre la gloire, d'être reconnu pour ce qu'il fait? Oui, je crois que c'est possible. Et voici le secret que je vais examiner avec vous ce matin, encore dans Jean chapitre 12, au verset 23 et 24. Jésus leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Alors, on voit ici dans ce texte que Jésus-Christ nous donne vraiment le secret pour atteindre la gloire, pour être reconnu par les autres. On a lu que Jésus-Christ illustre dans le verset 24 avec un grain de blé. C'est-à-dire que le grain de blé est tombé en terre et il est mort. Et il a porté beaucoup de fruits. Je crois que le texte nous parle de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été planté à la croix. Il a été crucifié pour nous et il a payé le prix. Et on voit qu'on ne gagne rien du tout sans la souffrance et la mort. Jésus-Christ a porté beaucoup de fruits. C'est quoi? Le texte le dit. C'est l'Église. C'est le corps de Christ. C'est ceux qui connaissent le Seigneur Jésus-Christ par la foi. Ceux qui s'engagent pour lui, qui le louent en esprit et en vérité. Et le croyant a atteint la gloire en reconnaissant sa mort avec le Seigneur Jésus-Christ. Galates chapitre 2, au verset 4 et 5. C'est un verset clé. Et nous lisons ici dans Galates chapitre 2, au verset 20. Je dois trouver le passage là. Nous lisons ceci concernant vous et moi. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour nous. Et Romains chapitre 6, au verset 6, dit ceci, « Sachant que notre vieil homme a été crucifié, le moi qui habite en moi, la mauvaise nature avec laquelle nous étions nés. » Alors, on voit ici que cette personne-là a été crucifiée avec lui, afin que le corps de péché soit rendu à l'impuissance pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Par la foi, alors le croyant, il s'approche de Dieu et il reconnaît qu'il était déjà crucifié avec le Seigneur Jésus-Christ. Alors, le vieil homme, comme je viens de le dire, le moi qui habite en moi, avait une crucifixion avec Jésus. Alors, cette personne vit toujours. Jésus-Christ est mort, mais nous savons que Jésus-Christ vit sa vie en lui et à travers de lui. Alors, cette personne qui veut toujours contrôler, diriger sa vie, avait une crucifixion. Et je crois que c'est l'apôtre Paul qui l'explique bien. Et il était vraiment un homme, un serviteur de Dieu qui a fait beaucoup de choses. Et il le dit comme ceci, dans 1 Corinthiens 15, au verset 10. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi, toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. La clé là, c'est qu'il dit ici, non pas moi, toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Et Jésus-Christ s'est manifesté avec lui un jour. Et il est allé lui-même à la croix. Il a été sauvé. Et il est devenu un serviteur par excellence. Il est devenu vraiment un homme de Dieu. Et je voudrais lire comment Jésus explique le secret pour atteindre la gloire, pour être reconnu par les autres, pour se plaire à Dieu. Nous lisons dans Matthieu, chapitre 16, au verset 24 et 25. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. » Alors, il y a trois choses que Jésus nous dit, que je vais souligner ici, qui expliquent aussi, d'après notre Seigneur Jésus-Christ, cette crucifixion que nous pouvons expérimenter avec lui-même. Alors, il dit tout d'abord, nous devons nous renoncer à nous-mêmes, se renoncer à lui-même. Le contraire de cela, c'est vivre pour lui-même et se charger de sa croix. Alors, si on ne se charge pas de notre croix, nous ignorons la croix. Alors, je vais dire que nous avons entendu assez souvent que mon fardeau, c'est les problèmes que j'ai à l'école ou au lycée ou quelque chose. Mais quelqu'un a dit un jour que mon fardeau, c'est ma belle-mère et qui ne m'aime pas. Et elle crée beaucoup de problèmes vis-à-vis de moi. Alors, se charger de sa croix, il s'agit de s'identifier avec Jésus-Christ dans sa mort et dans sa crucifixion. Alors, quand nous sauvons nos vies, quand nous gardons nos vies pour nous-mêmes, nos plans, nos plaisirs, alors nous gaspillons la vie, nous gaspillons nos vies et nous nous privons de beaucoup de bénédictions pour le Seigneur Jésus-Christ. Alors, je dois admettre ce matin que le chemin de la gloire n'est pas un chemin facile. Comme je viens de dire, nous devons nous humilier et nous devons prendre notre place à la croix avec Jésus-Christ. On doit réaliser que nous étions identifiés avec lui. Lorsqu'il est mort, nous sommes morts avec lui. Mais cette vie n'est pas toujours facile. Ce n'est pas toujours un chemin facile. Et il y a des situations, des circonstances dans lesquelles nous devons nous mourir à nous-mêmes. On lit dans 2 Corinthiens 4, au verset 10 à 12, un passage qui nous aide à comprendre tout cela. Portant toujours avec nous, dans notre corps, la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi, la mort agit en nous et la vie agit en vous. Alors, pour moi-même, à mon âge, alors, je le trouve difficile parfois. Je commence à expérimenter les choses que je n'ai pas expérimentées lorsque j'avais 30 ou 40 ou même 50 ans. Et je n'aime pas toujours le conseil que quelqu'un me donne, n'est-ce pas? Moi, je réagis et je n'accepte pas toujours. Et je dois faire face à cette vérité que j'étais crucifié avec le Christ et qu'il voudrait m'aider à surmonter ces épreuves, ces difficultés que je peux expérimenter. Et c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure qu'il faut s'humilier, il faut reconnaître que Jésus-Christ est le Sauveur et le Seigneur de ma vie. Et on a une promesse. Lorsque nous nous humilions, la parole de Dieu dit, « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » Il y a toujours un moyen de sortir de nos problèmes, de réaliser que je ne dois pas vivre comme j'ai vécu dans le passé, mais je peux vivre d'après le conseil de Dieu et comment Jésus me dirige dans cette vie crucifiée avec lui. Et en se confiant en lui, il pourvoit. Et comme on lit, je crois que c'est dans 1 Corinthiens 10 au verset 13, il prépare un moyen de sortir de tout cela. Alors, je voudrais juste revenir dans Jean chapitre 12, au verset 23 et 24, lorsqu'il parle d'un blé, un morceau de blé, un grain de blé qui tombe en terre. Alors, on voit en lui-même, le blé est faible et inutile. Quand il est planté, alors on voit d'autres choses. Il meurt et il devient fructueux. Je crois que les enfants de Dieu sont comme cela. C'est-à-dire que nous sommes petits, nous sommes insignifiants en nous-mêmes. Mais quand nous permettons à Dieu de nous planter en mourant à la croix, alors nous pouvons devenir grands et significants. Nous pouvons être un instrument, une bénédiction pour les autres. Mais il y a quelque chose à découvrir pour atteindre la gloire, pour être reconnu par les autres, pour être quelqu'un qui réussit dans ce qu'il fait, n'importe où, si c'est un moniteur de l'école du dimanche, si on fait la collecte, ou si on prie, ou on fait le porte-à-porte, n'importe quoi. Il y a une puissance à découvrir. Il s'agit de quoi? C'est quoi qui nous aide à abandonner nos droits pour devenir vraiment cette personne qui glorifie Dieu? C'est l'amour. Est-ce que vous l'avez noté dans le verset 34 et 35? Je vous donne un nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres à ceci. Connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. L'amour est la puissance qui nous aide à être reconnus, qui nous aide à atteindre la gloire. Et voici l'indice dans le verset 34-35. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et je crois que un des meilleurs passages qui explique comment il nous a aimés se trouve dans 1 Jean, chapitre 3, au verset 16 à 18. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles. Comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. C'est ça, en action et avec vérité. L'amour, nous devons la mettre ce matin, que cela comprend nos émotions, nos attachements, peut-être nos affections, mais je voudrais vous dire ce matin que c'est beaucoup plus que cela. C'est un acte de volonté. Nous devons déterminer d'aimer. Nous devons déterminer de donner, d'aider quelqu'un. Nous devons choisir de faire quelque chose pour aider quelqu'un dans le besoin, comme nous lisons dans Jacques chapitre 2 et versets 15 et 16, que je ne lirai pas. Mais l'amour, la preuve de notre amour n'est pas dans nos sentiments, mais dans nos actions, dans ce que nous faisons. Et voilà ce qu'il faut retenir au sujet de l'amour, c'est cela se trouve dans nos actions et dans ce que nous faisons. Jésus a déterminé de faire l'œuvre de Dieu. Il était d'accord d'aller à la croix. On lit dans les évangiles comment c'était vraiment difficile pour lui. C'était un homme qui était vraiment abusé. C'est un homme qui a expérimenté beaucoup de douleur. Mais il a dit, non pas moi, mais ta volonté, quelque chose comme cela. Alors, il a vraiment fait un exemple, comme on l'a lu, comme Jésus nous a aimés. Aimer comme Jésus nous a aimés signifie que nous nous comportons nous-mêmes envers les autres comme Jésus s'est comporté lui-même envers nous. Alors, l'apôtre Paul nous donne vraiment une description fantastique et glorieuse, n'est-ce pas, de cet amour. Lorsque nous lisons dans 1 Corinthiens 13, au verset 4 à 8, voici comment nous devons aimer. Regardez bien si vous avez votre Bible. La Bible dit, l'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Il y a encore un passage que je dois lire vis-à-vis de cela. Il se trouve dans Philippiens, chapitre 2, au verset 3 et 4. Voici ce que nous lisons.